Sixième partie. Holly. 22-24 juillet. 1. Holly reposa le téléphone du bureau, qu'elle rapportait toujours à la maison, même si Pete la taquinait à ce sujet, sur son socle, à côté de son téléphone personnel, et demeura assise devant son ordinateur pendant peut-être 30 secondes. Puis elle appuya sur le bouton de son moniteur Fitbit pour prendre son pouls. 75. Soit 8 à 10 pulsations de plus que la normale. Pas étonnant. Cette affaire Maitland l'avait excitée et passionnée comme aucune autre affaire depuis qu'elle en avait fini avec l'horrible et non regretté Brady Hartsfield. Mais ce n'était pas tout à fait exact. En réalité, plus rien ne l'excitait depuis la mort de Bill. Pete Huntley était très bien, mais ici, dans le silence de son joli appartement, elle pouvait se l'avouer, c'était un gagne petit. Il se contentait de courir après les cas sociaux, les fugitifs, les voitures volées, les animaux perdus et les pères qui ne payaient pas les pensions alimentaires. Et si Holly avait dit la vérité, rien que la vérité, à Alec Pelley, elle détestait effectivement la violence qui lui nouait l'estomac, sauf dans les films. La traque de Hartsfield lui avait malgré tout donné l'impression d'être vivante, comme rien d'autre depuis. Celle de Maurice Bellamy aussi, un dingue de littérature qui avait assassiné son écrivain préféré. Aucun Brady Hartsfield, aucun Maurice Bellamy ne l'attendrait à Dayton. Et c'était tant mieux car Pete se trouvait dans le Minnesota, en vacances. Et son ami Jérôme était parti avec sa famille en Irlande.
J'embrasserai la pierre de l'éloquence pour toi, la Blarney Stone, ma chérie, lui avait-il dit à l'aéroport, en prenant un accent irlandais aussi affreux que le parler petit nègre qu'il affectait encore parfois pour la faire enrager.
« Je te le déconseille, » avait-elle répondu. « Songe à tous les microbes qu'il doit y avoir dessus. Berk !» Alec Pelley pensait que je serais rebuté par l'étrangeté de cette affaire, se dit-elle en esquissant un sourire. Il pensait que je répondrais.
« C'est impossible. Une personne ne peut pas se trouver dans deux endroits en même temps. » Et une personne ne peut pas disparaître sur des images d'actualité. Il s'agit d'une plaisanterie ou d'une arnaque.
Mais ce qu'Alec Pelley ignore, et je ne lui dirai pas, c'est qu'une personne peut se trouver dans deux endroits en même temps. Brady Hartsfield l'a fait. Et quand il est enfin mort, il habitait le corps d'un autre homme.
« Tout est possible, » dit-elle en s'adressant à la pièce vide. « Absolument tout. » Le monde est rempli de coins et recoins étranges.
Elle ouvrit Firefox et trouva l'adresse du Tommy et Tuppence. L'hôtel le plus proche était le Fairview, sur Northwoods Boulevard. La famille Maitland avait-elle logé là? Elle poserait la question appelée par mail. Mais c'était fort probable, compte tenu des déclarations de la fille aînée des Maitland. En se rendant sur le site de Trivago, Holly découvrit qu'elle pouvait réserver une chambre correcte pour 92 dollars la nuit. Elle envisagea de s'offrir une petite suite, mais y renonça très vite. Cela ferait gonfler la note de frais, une pratique détestable et une pente savonneuse. Elle appela le Fairview Hotel, avec le téléphone du bureau, étant donné qu'il s'agissait d'une dépense justifiée, et réserva une chambre pour 3 nuits, à partir du lendemain. Après quoi, elle ouvrit Matt Cruncher sur son ordinateur, le meilleur programme, selon elle, pour résoudre les problèmes quotidiens. Au Fairview, les chambres étaient disponibles à partir de 15 heures, et la vitesse à laquelle sa Prius consommait le moins de carburant sur autoroute était de 100 km/h. Elle ajouta un arrêt pour faire le plein et sans doute grignoter un repas médiocre dans une cafétéria, plus 45 minutes à cause des inévitables ralentissements dus aux travaux.
« Je partirai à 10 heures, » déclara-t-elle. « Non, 9h30 plutôt. » Pour être sûr.
Et pour être encore plus sûr, elle utilisa son application Waze afin d'établir un itinéraire de rechange au cas où. Elle se doucha afin de ne pas avoir à le faire en se levant, enfila sa chemise de nuit, se brossa les dents, passa le fil dentaire. Les dernières études affirmaient que cela ne servait pas à lutter contre les caries, mais ce geste faisait partie de ses habitudes et elle continuerait jusqu'à sa mort. Ôta ses pinces à cheveux, les disposa côte à côte, puis se rendit dans la chambre d'amis, pieds nus. Cette pièce faisait office de cinémathèque. Sur les étagères s'alignaient des DVD, certains dans des boîtiers colorés, la plupart faits maison grâce au graveur Dernier Cri de Holly, il y en avait des milliers, 4375 précisément. Mais elle n'eut aucun mal à trouver celui qu'elle cherchait, car ils étaient classés par ordre alphabétique. Elle le prit et alla le déposer sur sa table de chevet, où elle était certaine de le voir en faisant sa valise demain matin. Après quoi, elle s'agenouilla, ferma les yeux et joignit les mains. Ses prières du matin et du soir étaient une idée de son psychiatre, et quand Holly avait protesté et déclaré qu'elle ne croyait pas trop en Dieu, il lui avait expliqué que le fait de confier à voix haute ses inquiétudes et ses espoirs à un pouvoir supérieur hypothétique l'aiderait, même si elle n'était pas croyante. Et effectivement, ça semblait fonctionner.
C'est encore Holly Gibney, et j'essaie toujours de faire de mon mieux. Si vous êtes là, protégez Pete pendant qu'il est à la pêche, s'il vous plaît. Car seul un idiot part sur un bateau sans savoir nager. Punissez, je vous prie, les Robinson, là-bas, en Irlande. Et si Jérôme envisage réellement d'embrasser la pierre de l'éloquence, j'aimerais que vous l'incitiez à se raviser. Je bois du Boots pour essayer de prendre un peu de poids, car le docteur Stonefield dit que je suis trop maigre. Je n'aime pas ça, mais chaque dose possède 240 calories, à en croire l'emballage. Je prends aussi mon Lexapro et je ne fume pas. Demain, je me rends à Dayton. Je vous en supplie, aidez-moi à conduire prudemment, à respecter le code de la route et à utiliser au mieux les éléments dont je dispose et qui sont très intéressants. Elle réfléchit. Bill me manque toujours. Voilà, je crois que c'est tout pour ce soir.
Elle se coucha et 5 minutes plus tard, elle dormait. 2. Holly arriva au Fairview Hotel à 15h17. Elle aurait pu faire mieux, mais ce n'était pas trop mal quand même. Elle aurait pu arriver à 15h12, estimait-elle, si tous les feux rouges ne s'étaient pas ligués contre elle dès qu'elle avait quitté l'autoroute. La chambre était correcte. Dans la salle de bain, les serviettes avaient été étendues légèrement de travers sur la porte de la douche, mais elle y remédia aussitôt après avoir utilisé les toilettes et s'être lavé les mains et le visage. Aucun lecteur de DVD n'était relié au téléviseur, mais pour 92$ la nuit, cela ne l'étonnait pas. Si elle éprouvait le besoin de regarder le film qu'elle avait apporté, son ordinateur ferait très bien l'affaire. Réalisé au rabais, en une dizaine de jours certainement, ce n'était pas le genre de film qui nécessitait une image haute définition et un son Dolby. Le restaurant Tommy et Tuppence se trouvait à un pâté de maison de l'hôtel. Holly en aperçut l'enseigne dès qu'elle sortit de sous la marquise. Elle s'y rendit et examina le menu affiché sur la vitre. Dans le coin supérieur gauche, un dessin représentait une tourte fumante. Et dessous, on pouvait lire « La tourte à la viande de bœuf et au rognon est notre spécialité. » Elle continua à marcher et arriva bientôt devant un parking aux trois quarts plein. « Parking municipal », indiquait une pancarte. « Stationnement limité à 6h. » Holly entra et chercha des tickets sur les pare-brises ou des marques à la craie sur les pneus. En vain. Ce qui voulait dire que personne n'était là pour faire respecter la durée limitée. Le système reposait sur la confiance. Dans l'État de New York, ça ne marcherait pas, mais peut-être que ça fonctionnait dans l'Ohio. En l'absence de contrôle, impossible de dire combien de temps la camionnette avait stationné ici, après que Marilyn Cassidy l'avait abandonnée. Pas très longtemps, sans doute, devinait-elle. Comment résister aux portières non verrouillées et aux clés restées sur le contact? Elle retourna au Tommy et Tuppence et se présenta à la femme qui l'accueillit en expliquant qu'elle enquêtait sur un homme qui avait résidé dans les parages au printemps dernier. Il s'avéra que cette femme était également copropriétaire du restaurant. Comme c'était encore calme, avant le coup de feu du soir, elle se montra toute disposée à bavarder. Holly voulut savoir si, par hasard, elle se souvenait à quelle date le restaurant avait distribué des menus dans les environs.
« Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait ?» demanda la femme.
Elle s'appelait Mary, et non Tuppence, et son accent évoquait le New Jersey, bien plus que Newcastle.
« Je ne suis pas autorisé à le dire, il s'agit d'une affaire judiciaire, vous comprenez ?»« Oui, je me souviens de la date, » dit Mary. « Ce serait bizarre que je ne m'en souvienne pas. »« Pourquoi donc ?»« Quand on a ouvert il y a 2 ans, le restaurant s'appelait Chez Fredo, comme dans Le Parrain, vous voyez ?»«
Oui, » dit Holly. Même si on se souvient surtout de Fredo dans Le Parrain 2, pour la scène où son frère Michael l'embrasse et lui dit « Je sais que c'est toi, Fredo, tu m'as brisé le cœur. »
Ça, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a environ 200 restaurants italiens à Dayton, et on ne s'en sortait pas. Alors on a décidé de tenter la cuisine britannique, si on peut appeler ça de la cuisine. Fish and chips, saucisses purées et même des toasts aux haricots. Et de rebaptiser le restaurant Tommy et Tuppence, comme dans les romans d'Agatha Christie. On se disait qu'à ce stade, on n'avait plus rien à perdre. Et vous savez quoi? Ça a marché. Je n'en revenais pas. Le midi, on fait le plein, et presque tous les soirs aussi.
Quand elle se pencha en avant, Holly sentit très nettement l'odeur du gin dans son haleine.
« Vous voulez que je vous dise un secret ?»«
J'adore les secrets, » répondit Holly en toute franchise.
« La tourte à la viande et aux rognons arrive surgelée d'une société de Paramus. Nous, on la fait juste réchauffer au four. Et vous savez quoi ? Le critique gastronomique du Dayton News l'a adoré. Il nous a donné 5 étoiles. Je plaisante pas. »
Mary se pencha encore un peu plus et murmura.
« Si vous le répétez à quelqu'un, je serai obligé de vous tuer. »
Holly passa son pouce sur ses lèvres fines et tourna une clé imaginaire. Un geste qu'elle avait vu faire à Bill Hodges en de nombreuses occasions.
« Et donc, dit-elle, quand vous avez rouvert le restaurant avec un nouveau nom et un nouveau menu, ou peut-être juste avant, Johnny, c'est mon mari, voulait distribuer des prospectus une semaine avant, mais je lui ai dit que je trouvais ça idiot. Les gens oublieraient. Alors on a attendu la veille. On a engagé un gamin et imprimé suffisamment de menus pour couvrir un rayon de 9 pâtés de maison, y compris le parking un peu plus haut dans la rue. Oui, c'est important. Vous voulez bien consulter votre calendrier pour savoir quel jour c'était précisément. Inutile. C'est gravé dans ma mémoire.
Mary se tapota le front.
Le 19 avril, un jeudi. On a rouvert, le vendredi.
Holly résista à l'envie de corriger la faute de grammaire de Mary, la remercia et se retourna pour prendre congé.
« Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas me dire ce qu'a fait ce type ?»« Désolé, je perdrai mon boulot. »« Venez dîner au moins, si vous logez en ville. »«
Promis, » dit Holly.
Elle n'en ferait rien, c'était sûr. Comment savoir si d'autres plats surgelés n'arrivaient pas de Paramus ? 3. L'étape suivante était une visite à l'Institut de la mémoire Iceman pour s'entretenir avec le père de Terry Maitland s'il était dans un bon jour, à supposer qu'il ait encore des bons jours. Même s'il planait complètement, elle pourrait sans doute interroger certaines des personnes qui travaillaient au centre. En attendant, de retour dans son agréable chambre d'hôtel, elle alluma son ordinateur et envoya à Alec Pelley un mail intitulé « Gipney, rapport ».
Les menus du Tommy et Tuppence ont été distribués dans un rayon de 9 pâtés de maison le jeudi 19 avril. Ma conversation avec la copropriétaire du restaurant, Mary Hollister, me permet de confirmer l'exactitude de cette date. Dès lors, nous pouvons affirmer que c'est ce jour-là que Merlin Cassidy a abandonné la camionnette sur le parking voisin. Notez que la famille Maitland est arrivée à Dayton le samedi 21 avril, aux alentours de midi. Je suis quasiment certaine que la camionnette n'était déjà plus là. Je me renseignerai auprès de la police locale dès demain, en espérant éliminer une possibilité supplémentaire. Ensuite, je me rendrai à l'Institut de la mémoire Iceman. Si vous avez des questions, envoyez-moi un mail ou appelez-moi sur mon portable. Holly Gibney, Finders Keepers.
Cela étant réglé, Holly descendit au restaurant de l'hôtel et commanda un repas léger. Elle n'avait jamais recours au room service, qu'elle jugeait ridiculement hors de prix. Dans la liste des programmes à la demande, elle trouva un film avec Mel Gibson, qu'elle n'avait pas vu. $9.99, qu'elle déduirait de la liste de ses frais quand elle rédigerait sa facture. Le film n'était pas formidable, mais Gibson faisait de son mieux avec ce dont il disposait. Elle nota le titre et la durée dans son carnet de visionnage du moment. Elle en avait déjà rempli 2 douzaines, et lui accorda 3 étoiles. Sur ce, elle vérifia que la serrure et le verrou de la porte étaient bien fermés, récita ses prières, comme toujours, elle conclut en confiant à Dieu que Bill lui manquait, et alla se coucher. Elle dormit pendant 8 heures, sans faire de rêve. Du moins, aucun dont elle se souvienne. 4. Au matin, après un café, une marche de 5 kilomètres d'un pas vif, un petit déjeuner dans une cafétéria des environs et une douche chaude, Holly appela la police de Dayton et demanda le service des contraventions. Après une attente d'une agréable brièveté, un certain officier Linden lui demanda en quoi il pouvait lui être utile. Holly trouva cela charmant. Un policier aimable égayait sa journée. Même si, pour être honnête, on en rencontrait souvent dans le Midwest. Elle se présenta, expliqua qu'elle s'intéressait à une camionnette Econoline blanche abandonnée sur un parking public de Northwoods Boulevard en avril, et demanda si la police de Dayton inspectait régulièrement les parkings de la ville.
« Bien sûr, » répondit l'officier Linden. « Mais pas pour vérifier que personne ne dépasse les 6 heures autorisées. Nous sommes des policiers, pas des contractuels. »
« Je comprends, » dit Holly. « Mais il repère les éventuelles épaves, je suppose. »
Cette question fit rire l'officier Linden.
« Votre société doit faire pas mal de récupérations et de saisies de véhicules. »
« Avec les fugitifs, c'est notre gagne-pain. »
« Dans ce cas, vous savez comment ça marche. On s'intéresse particulièrement aux voitures de luxe qui sont garées depuis un certain temps, en ville et sur les parkings longue durée des aéroports. Les Denali, les Escalades, les Jag et les BM. Vous dites que cette camionnette était immatriculée dans l'État de New York ?»«
Exact. » »«
Elle n'a pas dû attirer l'attention dès le premier jour. Et figurez-vous que des habitants de l'État de New York viennent à Dayton, aussi bizarre que cela puisse paraître. Mais si elle était encore là le lendemain, probablement. »
Ce qui laissait encore une journée entière avant l'arrivée de Maitland.
« Merci, monsieur l'agent. »«
Je peux me renseigner auprès de la fourrière, si vous voulez. »«
Ça ne sera pas nécessaire. La camionnette a réapparu à 1 millier de kilomètres au sud d'ici. »«
Puis-je savoir pourquoi elle vous intéresse, si ça ne vous ennuie pas ?»«
Nullement, » répondit Holly. « Après tout, c'était un officier de police. »« Elle a servi à enlever un enfant, qui a été assassiné ensuite. »